Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'info locale et régionale sur Calade. Au sommaire de notre édition, coronavirus, le développement de l'Afrique, la meilleure des antidotes. Titrait le site web Monde Afrique. L'OMS tirait la sonnette d'alarme, l'Afrique devrait se réveiller et appelait le continent à se préparer au pire. L'Afrique, les Afriques, face à la pandémie. Nous avons joint par téléphone Benjamin Jaïr, mobilisé depuis de nombreuses années sur des actions d'entraide au développement sur le continent et plus particulièrement au Sénégal et au Gabon. Il est accompagné de témoignages d'autochtones. Calade, le journal. Le coronavirus révèle l'extrême fragilité de la mondialisation néolibérale. Un krach financier dû au coronavirus est fort probable. Plutôt que de se réjouir d'une récession mondiale imposée qui aurait des effets humains dévastateurs, la crise actuelle peut agir comme un révélateur des fragilités extrêmes de la mondialisation et contribuer à sa condamnation. Écrit Jean Cadret, économiste professeur honoraire à l'Université de Lille, dans un article de Reporter. Si l'on en croit, nous dit-il, les éditorialistes économiques qui tiennent le haut du pavé médiatique, la diffusion potentielle mondiale du coronavirus n'est pas de type sanitaire, comme le pensent les personnes, mais la croissance mondiale qui est terriblement affectée, voire infectée. L'économie tousse et le phénomène devient lui aussi viral. D'abord, la croissance chinoise est en train de plonger. Le virus de la récession mondiale menace désormais par une contamination qu'on ne peut freiner en se lavant les mains, parce que ce récessovirus se propage surtout par voie aérienne et maritime pour les marchandises et les personnes, et par voie électronique pour la sphère financière. Un monde du capitalisme financier où les banques systématiques et les fonds d'investissement et de pension font la loi tant que ça rapporte, où les bourses dominent l'économie, où les multinationales ont joué la mise en concurrence de pays qui se mettent sous leur influence, qu'il s'agisse de la finance, des accords dits de libre-échange et de libre-investissement, qui donnent de plus en plus de pouvoir aux multinationales. Dans ce contexte, celui de la mondialisation financière néolibérale, le coronavirus joue le rôle d'une simple allumette. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre et toutes les autres pollutions reculent fortement sous l'effet de cette nette décrue de la croissance mondiale. La crise actuelle peut agir comme un révélateur des fragilités extrêmes de la mondialisation libérale croissanciste et contribuer à sa condamnation. Coronavirus, le développement de l'Afrique, la meilleure des antidotes. Titrait le site web Monde Afrique. L'OMS tirait la sonnette d'alarme, l'Afrique devrait se réveiller et appelait le continent à se préparer au pire. Le continent serait promis à une crise économique sévère, causée d'une part par les mesures de confinement ou de restrictions d'activités prises dans de nombreux pays par l'arrêt des échanges et du commerce international. L'Afrique, les Afriques, face à la pandémie. Nous avons joint par téléphone Benjamin Jaïr, mobilisé depuis de nombreuses années sur des actions d'entraide au développement sur le continent et plus particulièrement au Sénégal et au Gabon. Il est accompagné de témoignages d'autochtones.
J'ai effectivement des nouvelles d'Afrique de l'Ouest principalement. On a quelques ressortissants français qui sont coincés dans certaines grandes villes comme Dakar ou Ziguinchor. Quelques amis aussi sénégalais qui vivent en France et en Italie qui sont repartis voir leur famille cet hiver et qui sont coincés aussi dans certaines villes et villages. Et puis au sud du Sénégal, en Casamance, on a un projet agricole en permaculture avec lequel justement on entretient des relations étroites quotidiennes. Et un autre projet là qui se développe au Gabon, où effectivement le corona est arrivé aussi, et puis des amis de longue date là, qu'on a au Burkina Faso. Voilà.
Alors le Sénégal a enregistré son premier cas de contamination, je ne vais pas dire de bêtises, le 12 avril, c'est relativement proche de nous. Hein.
Alors dans la grande ville de Dakar, donc là apparemment on en est au deuxième décès, même maintenant à l'heure où on parle. Il y a une certaine habitude des pandémies ou des épidémies, en tout cas avec une certaine expérience du choléra, notamment même encore ces dernières années dans les quartiers HLM ou les quartiers plutôt considérés comme bidonvilles, c'est-à-dire des quartiers qui sont souvent inondés. Donc il y a une certaine habitude à justement rester chez soi et à éviter les grands rassemblements publics. Donc là, ce qui a été mis en place rapidement par le gouvernement, c'est de fermer les marchés, parce que pour ceux qui ont l'expérience d'aller dans des marchés En Afrique, il y a une grande promiscuité et puis beaucoup, beaucoup d'étals. Et les gens sont très serrés. C'est un peu comme les souks dans le Maroc, par exemple, où on passe entre les étals et on passe à une ou deux personnes maximum en se touchant tout le temps. Donc là, ils ont assez bien réagi et rapidement en fermant les marchés. Et puis aussi les lieux de culte qui sont dans le quotidien des Africains musulmans, des lieux de rencontre chaque jour et plusieurs fois par jour, eh bien ont été fermés tout de suite après l'annonce, en tout cas, de l'épidémie sur le territoire.
Monsieur Zahir, j'espère que ça va là-bas. Moi, je vais bien ici. Je vis bien ce confinement car en ce moment, je fais un peu d'activité à la maison. J'ai mon petit jardin. Je fais du petit jardinage en même temps. Il y a mon poulailler, quoi. C'est ça mon activité en tout cas. Et parfois, je lis beaucoup et voir mes cours, faire des exercices. En ce moment de confinement, c'est ça mon activité. Certes, je sors pas beaucoup. À part faire du sport, quand je sors, c'est pour aller faire une 25 minutes de course et revenir faire des exercices à la maison. C'est ça mon activité en ce moment, quoi. Et j'espère que vous allez bien. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.
Comme chez nous également, les écoles, les lieux où, de rencontre également, effectivement, là où il y a du monde dans tous les cas. Et comment réagissent finalement les Sénégalais à ce confinement?
Oui, effectivement. Alors, il y a deux types de lieux parce qu'il y a souvent deux types d'horaires. Et c'est ça la grande différence avec chez nous, c'est que les écoles ont été fermées tout de suite, le milieu scolaire d'une manière générale, la journée.
Oui, c'est pour le coronavirus. On dit restez chez vous, on reste à la maison, on ne sort pas. On a fermé les marchés, beaucoup de boutiques, on a tout fermé ça.
Et puis pour tout ce qui concerne le soir, et on sait qu'en Afrique on vit beaucoup la nuit, beaucoup en tard le soir, parce que c'est là qui fait le moins chaud, hein, tout simplement, et bien là c'est un couvre-feu directement qui a été installé, puisque malheureusement dans ces pays, et je pense aussi au Burkina, à mes amis du Burkina là-bas, on a l'habitude justement des couvre-feux. Et là donc de 20h le soir à 6h du matin, le couvre-feu est installé. Et du coup, là, c'est même pas possible de sortir. J'avais le témoignage là d'une amie, Astou, qui m'a envoyé un vocal hier, pour me dire que les gens se faisaient taper, dès qu'ils étaient attrapés, la nuit, dehors.
Les couvre-feux, ils ont monté à 20 heures sur la route. De ne pas sortir, personne ne sort pas. Si quelqu'un qui sort, on le frappe.
Très bien, donc c'est assez rigoureux, on va dire même, peut-être un peu militaire, non, comme un petit peu.
Oui, c'est ça. Hein, l'Afrique, elle a toujours ses deux côtés. L'aspect très laxiste, en tout cas, où on est assez flegmatique, on pense à peine au lendemain. Et puis l'aspect très militaire, où quand une décision de couvre-feu est prise et quand l'armée est sur le territoire, là, ça rigole plus et c'est la matraque qui dirige.
Alors là, vous parlez effectivement de grandes villes, hein, bien sûr, avec toutes les infrastructures ou les structures même de santé, hein, qui doivent exister. Est-ce que c'est un peu plus compliqué pour peut-être les campagnes?
Tout à fait. Donc, en campagne, donc, il y a un petit peu moins de moyens humains et de moyens militaires pour laisser les gens chez eux. Donc, il n'y a pas de contrôle. Donc, je sais que les gens ont pris très à cœur de faire un peu comme ils ont vu sur les réseaux sociaux en Europe. Donc, ils ont installé de quoi se laver les mains dans les rues et dans les familles, qui sont des grandes familles, très rapidement. Et puis, ils se sont créés un peu une sorte de milices locales pour justement empêcher un petit peu les gens de sortir. Et surtout, le gros phénomène, c'est que les transports se sont complètement arrêtés. Donc, du coup, de toute façon, les gens, même s'ils sont cloisonnés dans leur maison ou dans leur village, ne voyagent plus. Donc, du coup, ça les confine au moins à l'échelle du village.
Alors, on sait, mais même en Europe, hein, mais on sait aussi qu'en Afrique, il y a énormément de personnes qui vivent dehors, dans la rue, notamment les fameux enfants de la rue de la capitale, hein, sénégalaise. Donc, là aussi, il y a un vrai danger public, en quelque sorte, au niveau sanitaire pour ces personnes, hein, j'allais dire.
Alors effectivement, les enfants des rues, qu'on appelle plus communément les talibés, Sont vraiment les premières victimes parce que déjà ils sont pas en santé, ils sont pas du tout en bonne santé puisqu'ils sont mal nourris, ils dorment dehors, etc. Donc du coup il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés et on va d'ailleurs faire un appel dès demain là sur les réseaux sociaux pour les jeunes talibés de Casamance qui du coup vont être soutenus par des groupes de jeunes et ce qui va manquer un petit peu là c'est de quoi les nourrir. Donc on va essayer de faire une collecte dans ce sens. Est-ce qu'on se rend compte, c'est que les hôpitaux et le milieu médical leur refusent souvent l'accès à ces enfants parce que de tout temps, en tout cas, ce sont des parias et on les rejette de ce genre de lieu et encore plus dans la situation actuelle où on préfère apparemment les laisser dehors. Donc là, j'ai quelques témoignages qui parlent de ça et qui sont des témoignages assez violents. Donc c'est un petit peu compliqué. Les ONG sont parties. Les ONG, je dirais, qui sont dans un humanitaire de premier niveau sont parties. Donc du coup, c'est les gens qui se débrouillent un petit peu entre eux et qui créent un propre réseau de solidarité et qui en appellent en tout cas à l'Europe et à la diaspora africaine pour les soutenir.
Pour les talibés qu'on appelle enfants de la rue au Sénégal, qui étudient dans les daras qu'on appelle l'école coranique en français. Donc moi, j'ai décidé de les aider parce que j'ai vécu avec eux. Certes, moi, je mendiais pas, mais j'ai vécu avec eux à Rue Fixe, à Dakar. Ces jeunes-là, ils sont fatigués. Et moi, j'ai vu que jusqu'à présent, l'État n'a rien fait pour eux, pour les aider, pour qu'ils restent chez eux. Et j'ai décidé de créer un mouvement qu'on appelle Azir pour les talibés. Et j'ai mis 10 de mes amis là-bas pour qu'ils aident ces jeunes-là. Nous avons commencé à cotiser nous-mêmes. Chacun ce qu'il a, il donne. Puis on descend sur le terrain. Sur le terrain, c'est dans les marchés. Dans les boutiques, on va aller dans les boutiques demander, faire une quête. Si chacun a quelque chose à donner, ils vont donner. Après, nous, on va acheter des matériaux, des aliments, des produits, amener ça dans les daras, écoles coraniques. Comme ça, les marabouts là qui disent aux enfants d'aller mendier, vont stopper ça, comme ça les enfants vont rester chez eux comme tous les enfants du Sénégal, comme tous les enfants du monde. Et c'était ça, quoi, mon but.
Voilà. Donc, moi, ce que j'ajouterais, c'est que comme ici, les gens se posent des questions, en tout cas ceux qui ne sont pas complètement enfermés dans des cages à lapins, etc., et ceux qui ont la possibilité au moins d'échanger sur Internet, de voir un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde, les gens commencent à se poser les bonnes questions. Et en Afrique, c'est la même chose, puisque régulièrement, dans nos activités en permaculture, là, on a pu donner des conseils, parce que les gens, voilà, visent cette autosuffisance alimentaire, cette souveraineté alimentaire. Et c'est ce qu'on doit justement aujourd'hui retenir de ce genre de cataclysme, en tout cas international, c'est que c'est pas l'économie de nos dirigeants et l'économie de nos sociétés aujourd'hui qui nous feront manger demain.
Avec chaque jour ça augmente, il y a beaucoup de guéris, il y a beaucoup de guéris, mais il y a beaucoup de contamination aussi. On ne sait pas qui a la maladie qui donne, qui fait la contamination.
Il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Agglomérer et chercher à résumer en un seul trait commun à tout ce qui se passe en Afrique du Nord, en Afrique australe, centrale ou de l'Ouest, par exemple, n'a aucun sens du point de vue de l'évolution de la pandémie. Le système sanitaire, renforcement du système de santé aujourd'hui, lutte contre le réchauffement climatique, contre l'insécurité, lutte contre l'extrême pauvreté, pour le développement économique, l'indépendance alimentaire. L'Afrique du Sud et son système de protection sociale et sa résilience générale n'ont absolument aucun point de comparaison avec ceux des pays d'Afrique centrale. Qui peut douter que l'amélioration de l'accès aux services essentiels, eau, électricité, assainissement, est un facteur d'amélioration de l'efficacité de la lutte contre le développement de la pandémie? Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.